la paix soit sur toi, ô messager de Dieu, et sur ta sainte et bénie famille. Que la paix soit sur toi, ô mon maître, ô Abba Abdellah, ô miséricorde de Dieu sur terre et aux portes du salut pour les cœurs. Ya laytana kunna ma'akum, فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. يقول الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالث لتعجيل فرج صاحب الزمان. Dieu dans le Coran dit, dans le verset que je viens de lire, كتب ربكم على نفسه الرحمة. Dieu s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et donc il a voulu pour lui-même cette miséricorde. Il a choisi pour lui-même cette miséricorde. Et ce sera le sujet de notre discours aujourd'hui. La miséricorde de Dieu. Son importance et sa place en islam. C'est un sujet assez important, parce qu'aujourd'hui, on va dire, d'un côté, on a les médias, qui présentent une certaine image de l'islam, comme étant une religion cruelle, une religion de violence. D'un autre côté, on a également des gens qui prétendent être musulmans, et qui également jouent un rôle dans ce problème. Les terroristes, etc., Daesh. Bon, par leur acte terroriste, c'est normal que l'image de l'islam sera salie. Et très souvent, cette religion est présentée comme une religion arriérée, violente, cruelle, avec un Dieu cruel et sectaire. Mais en vérité, quand on va dans les textes de religion, on voit que la miséricorde de Dieu, rahmatullah, a une place essentielle dans cette religion. D'ailleurs, pour comprendre l'importance et la place de la miséricorde de Dieu dans cette religion, il suffit d'ouvrir le Coran. Tu ouvres n'importe quelle sourate du Saint-Coran et tu as la basmala. Au début, tu as Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au début de n'importe quelle sourate, c'est comme la signature de Dieu. C'est comme dans une lettre, quand tu écris une lettre, à la fin tu signes. Ici, Dieu signe au début avec ces deux attributs qui reflètent sa miséricorde. Dieu a 99 noms, il a décidé de choisir les deux qui reflètent sa miséricorde. C'est pour dire l'importance. Au début de n'importe quelle sourate. Sauf Surat al-Tawbah, bien sûr. Surat al-Tawbah, c'est une exception. C'est la seule où il n'y a pas de basmala. On commence directement par le premier verset. Pour résumer, les mufassirines ont eu une divergence sur le pourquoi du comment. Certains ont dit, c'est parce que le premier verset de cette sourate ne correspond pas avec un début qui reflète la miséricorde. Le premier verset, c'est « Bara'atun min Allahi wa Rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin » Des aveux de la part de Dieu et du messager envers ceux avec qui vous avez fait un pacte parmi les associateurs. Donc, c'est quand même un verset qui reflète un peu une menace, qui a un ton strict. Ça ne correspond pas avec un début qui reflète plutôt la miséricorde. D'autres mufassirines ont dit non, en fait, c'est juste parce que Surat al-Tawbah, à l'origine, c'était une seule et même sourate avec la sourate précédente. Donc il n'y avait pas de début avec de masbara. Dans tous les cas, tous les versets ou toutes les sourates du Coran commencent avec la basmala, sauf Surat al-Tawbah. Ça reflète l'importance quand même de la miséricorde pour Allah. Pour sa signature, il a choisi le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Un autre exemple, quand tu ouvres le Saint-Coran, la première sourate, c'est Al-Fatiha. Al-Fatiha en arabe signifie celle qui ouvre, celle qui débute, c'est l'introduction, c'est la préface de ce livre. Eh bien, on lit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on lit dans cette première sourate du Coran. Louange à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et donc, en effet, la miséricorde a une place assez importante dans cette religion. Et on a apporté deux éléments indicateurs de ce phénomène. Maintenant, je voudrais commencer avec vous, avec le premier aspect, l'étendue de la miséricorde de Dieu. Il y a une question, quelle est l'étendue de la miséricorde de Dieu? A-t-elle une limite? Quelle est cette limite? Dieu dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, « Alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. » Dieu dit dans ce verset, ceux qui portent le trône, il parle des anges, et ceux qui l'entourent, qu'est-ce qu'ils font? Ils célèbrent les louanges de Dieu, premièrement. Deuxièmement, ils croient en lui. Troisièmement, ils demandent pardon à ceux qu'ils ont cru, à moi et toi, les croyants. Et ensuite, Dieu rapporte leurs paroles, les paroles des anges. Ô Dieu, tu as étendu sur toute chose ta miséricorde et ta science. Et donc, par ce verset, on comprend que la limite ou bien l'étendue de la miséricorde de Dieu, en fait, elle s'étend à toute chose. Elle est illimitée. Pour moi, toute chose, c'est peut-être ma maison, ma région, mon pays ou maximum cette planète, la planète Terre. Mais quand on parle de Dieu, toute chose, c'est toute l'existence, tout le monde de la création. C'est cette Terre et ce qu'il y a dans cette Terre. C'est les autres planètes, c'est les autres galaxies. Il n'y a pas de limite. Dieu dit, ici, il rapporte la parole des anges. « Ô Dieu, tu as étendu sur toute chose ta miséricorde et ta science. » Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sani ala hubbi al-Hassan wa al-Hussein. Un autre exemple pour comprendre l'étendue de la miséricorde de Dieu, du'a Kumail. On le lit chaque semaine. Ce dua à l'origine, c'est le dua de Khidr qu'il l'a enseigné ensuite à Kumail. On peut lire la première phrase de ce dua. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay. Ô Dieu, je te demande par ta miséricorde qui s'est étendue à toute chose. Et donc on comprend que cette miséricorde, qui est la miséricorde de Dieu, elle s'étend à toute chose. Elle est immense, elle est vaste. Le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est plutôt la miséricorde dans les hadiths d'Ahlul Bayt. Nous, nous prétendons être les partisans d'Ahlul Bayt. Et donc, il est important pour tous les sujets de voir ce que Ahlul Bayt eux-mêmes disent. Imam Baqir dit, nos paroles sont une lumière. Donc, il est un devoir pour un chiite de chercher cette lumière sur tous les sujets. Dans un hadith, l'imam Al-Kadhim dit, en parlant avec son compagnon, il discute, et à un moment, le hadith est assez long, à un moment, il lui dit, « Que penses-tu du compatissant, le miséricordieux, qui essaye de se faire aimer auprès de celui qui s'oppose à lui en s'opposant à ses alliés? Alors, que dire de celui qui accepte de souffrir pour lui ?» Imam Kadhim ici dit, « Allah, il est compatissant et miséricordieux envers ceux qui s'opposent à lui en s'opposant à ses alliés. » Par exemple, il y a quelques nuits, on a parlé de l'histoire de Noé. Le peuple de Noé faisait du mal à Noé parce qu'il voulait s'opposer à Dieu. S'opposer à Dieu en s'opposant au prophète de Dieu. Et donc, l'imam Kadhim dans ce hadith dit, « Que penser d'un Seigneur si miséricordieux qu'il essaye même auprès de ces gens, les ennemis de Dieu, de se faire aimer ? Quand Dieu envoie les prophètes à ces peuples égarés et ennemis de Dieu, c'est parce qu'il veut les guider. Il veut faire parvenir son amour. C'est ça son but. » Alors que dire d'une personne qui n'est pas l'ennemi de Dieu, qui ne s'oppose pas à lui? Au contraire, il accepte de souffrir pour lui. Ensuite, il continue en disant, « Et que penses-tu de l'accueillant du repentir, le miséricordieux, qui accepte le repentir de celui qui était son ennemi? Alors que dire de celui qui recherche sa satisfaction et accepte de supporter l'animosité des autres contre lui pour Dieu ?» Ici, l'imam Kadhim continue et dit, « Que penses-tu de ce Seigneur miséricordieux qui accepte le repentir de celui qui, il y a quelques instants, était l'ennemi de Dieu ?» Alors que dire d'une personne qui n'a jamais été l'ennemi de Dieu, qui a toujours recherché la satisfaction de Dieu? En d'autres termes, Dieu ouvre la porte de la miséricorde à tout le monde, que ce soit un élu de Dieu envers un élu de Dieu ou envers l'ennemi de Dieu. Un bon exemple qu'on a mentionné dans les nuits précédentes, c'est Al-Hur, Al-Hur ben Yazid al-Riyahi. Al-Hur était l'un des commandants de l'armée de Yazid. Et c'est même le premier commandant de l'armée de Yazid qui a arrêté l'imam al-Hussein à Karbala, qui a obligé l'imam al-Hussein à s'arrêter à Karbala. Mais lorsque Al-Hur s'est repenti, il est revenu vers Allah, il est allé chez l'imam al-Hussein. L'imam l'a accepté et Dieu l'accepta. Et aujourd'hui, on le compte parmi les martyrs de Karbala. Et donc, on comprend par le hadith de l'imam al-Kadhim que Dieu accepte et ouvre la porte de la miséricorde à toutes ses créatures. À l'exception que ces créatures veulent bien rejoindre Allah, se repentir, se réformer. Ça, c'était le premier hadith d'Ahl al-Bayt sur la miséricorde de Dieu. Le deuxième hadith concerne l'imam Zain al-Abidin. Il y a des gens qui sont venus chez l'imam Zain al-Abidin et ils ont demandé son avis sur la parole de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'était à l'époque un savant parmi les sunnites. C'est surtout une référence chez les sunnites pour tout ce qui est spiritualité, même fiqh. Ils m'ont dit, Hassan al-Basri a dit, il n'est pas surprenant dans l'au-delà pour celui qui a échoué comment il a échoué, mais plutôt, il est surprenant pour celui qui a été sauvé comment il a été sauvé. L'imam Zain al-Abidin a dit, Ana Akoul, moi je dis, donc ici il réagit, il répond, il dit, moi je dis plutôt, il n'est pas surprenant pour celui dans l'au-delà a été sauvé, pour celui qui a été sauvé, comment il a été sauvé. Mais plutôt, ce qui est surprenant, c'est pour celui qui a échoué, comment il a échoué, avec la vaste miséricorde de Dieu. L'imam ici dit, Hassan al-Basri, il est à côté de la plaque, il dit n'importe quoi. La miséricorde de Dieu, elle est si vaste, qu'il n'est pas étonnant pour celui qui a été sauvé, comment il a été sauvé. Et pourquoi ce serait étonnant? La miséricorde de Dieu est tellement vaste. On a lu le verset coranique. On a lu Dua Kumail, la première phrase de Dua Kumail. La miséricorde de Dieu s'étend à toutes choses. Pourquoi ce serait surprenant? Plutôt celui qui a échoué dans le delà et qui s'est retrouvé en enfer. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, avec la vaste miséricorde de Dieu? Quelle excuse avait-il, alors que Dieu lui a donné un long chemin, et un chemin assez facile pour atteindre la miséricorde de Dieu? Dans un autre hadith, l'imam Zain al-Abidin dit également, un croyant n'échouera jamais avec trois choses. Toujours quand on a ce verbe échouer dans les hadiths, ça veut dire ne pas se retrouver en enfer. Parce que, en fin de compte, c'est ça. La victoire ultime, c'est d'être au paradis. Et d'avoir cette satisfaction de Dieu dans le-delà. L'imam dit, avec trois choses, le croyant ne va jamais échouer. Premièrement, l'attestation qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Deuxièmement, l'intercession du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. On sait que le prophète dans le-delà, envers les croyants et surtout les partisans d'Ahl al-Bayt, il va intercéder. Des fois, t'as pas assez de hasanat, t'as beaucoup de péchés. Il intercède, il dit, cet homme, ce croyant, il avait mon amour en lui. Il était fidèle envers ma progéniture. Donc, deuxièmement, l'intercession du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Troisièmement, la vaste miséricorde de Dieu. C'est quoi la miséricorde de Dieu, rahmatullah? Que dans le delà, Dieu fait des faveurs. Il laisse passer. Toi, peut-être que tu ne mérites pas le paradis. Tu as beaucoup de péchés. Mais il laisse passer. Il voit que ton cœur, il y avait de la sincérité dans ton cœur. Il y avait une certaine pureté. Il y avait l'amour d'Allah. Il y avait l'amour du prophète. Il y avait l'amour d'Ahl al-Bayt. Il y avait la wilaya d'Ahl al-Bayt. Et donc, il fait des faveurs. C'est ça la miséricorde. C'est pas un droit, c'est des faveurs de la part de Dieu. Mais il laisse passer donc. Et beaucoup de hadiths mentionnent que dans l'au-delà, beaucoup de gens ou la majorité des gens ne rentrent pas dans le paradis par sa justice, par la justice d'Allah, mais plutôt par la miséricorde. Parce que s'il doit juger par sa justice, on ne passera pas. S'il doit être un juge strict, qui ne juge que selon la loi et sa loi divine, on ne passera pas. En vérité, dans la plupart des cas, il juge par sa miséricorde, parce qu'il est le miséricordieux. Et donc, il laisse passer beaucoup de gens. Il donne des faveurs. Et donc ça, c'était concernant la miséricorde vue par les Ahl al-Bayt, alayhim as-salam. Et donc, en d'autres termes, la miséricorde, c'est quoi? C'est que toi, il est demandé de ta part également de travailler, de faire quelque chose, de présenter quelque chose. Mais l'idée de la miséricorde, c'est que, littéralement, tu fais un geste, et puis en retour de la part de Dieu, Dieu fera 1000 gestes. C'est ça la miséricorde de Dieu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالثة لتعجيل فرج صاحب الزمان. Maintenant parlons des manifestations de la miséricorde de Dieu dans notre vie. Dans l'au-delà, on a terminé ce sujet, on a déjà abordé plusieurs aspects. On a dit que dans l'au-delà, Dieu fait beaucoup de faveurs, il laisse passer. Mais dans ce bas monde, dans notre vie, beaucoup de gens pourraient dire, bon, tout ça en théorie c'est bien beau, mais maintenant dans notre vie, quelles sont les manifestations de sa miséricorde? Quelles sont les manifestations de sa miséricorde? On lui dit premièrement le fait que tu existes maintenant dans ce monde. Ça, c'est une miséricorde de la part de Dieu. Est-ce que toi, tu avais un droit d'exister? Bien sûr que non. Du monde du néant, Dieu t'a mis dans ce monde de l'existence. Avant, tu étais le néant, Al-Adam. Maintenant, tu existes. Tu es dans le monde de l'existence, Al-Wujud. Ça, c'est quand on va surtout chez les savants qui s'intéressent qui sont intéressés dans la philosophie, dans la sagesse, dans la gnose. Ils te disent, la première manifestation de la miséricorde, c'est le fait que toi-même, tu existes. Du néant, tu es maintenant dans le monde de l'existence. Ça, c'est l'une des manifestations de la miséricorde de Dieu. Ensuite, tu as beaucoup d'autres manifestations. L'eau que tu bois. Quelle autre planète a de l'eau? Sans eau, on ne peut pas vivre. Dieu a fait de cette planète une planète qui correspond à nos besoins. L'air que tu respires, l'oxygène que tu respires. Y a-t-il d'autres planètes qui ont cet air? Dieu a fait pour toi cette planète, une planète qui correspond à tes besoins. N'est-ce pas une miséricorde de la part de Dieu? Les prophètes et messagers qu'il envoie. Est-ce que Dieu a été obligé d'envoyer des prophètes? Bien sûr que non. C'est miséricorde. C'est une miséricorde de sa part. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran qu'il a envoyé le messager de Dieu, le prophète Mohammed, comme miséricorde pour les gens. La religion qu'il a apportée à l'humanité, l'unicité de Dieu, le modèle d'éthique et de akhlaq et de bon comportement qu'il représente, ça c'est l'une des manifestations de la miséricorde de Dieu. Encore une fois, Dieu n'était pas obligé de le faire. C'est toujours dans cette idée de la miséricorde de Dieu. C'est une faveur de la part de Dieu. Même le sommeil, quand on y réfléchit, c'est une miséricorde de la part de Dieu. Le sommeil, s'il n'y avait pas de sommeil, imagine, 24 heures sur 24, tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. De la part de Dieu, c'est une miséricorde. Il t'a dit un moment dans la journée, la nuit, tu dors, c'est fini. Tu fermes la boutique, il faut dormir maintenant, il faut se reposer. Même dans la mort, il y a une miséricorde. Alors, c'est vrai que l'être humain, par sa nature, il aime l'immortalité. On en a déjà parlé il y a deux soirées. Mais imaginons maintenant qu'on doit vivre pendant, je ne sais pas, 50 millions d'années, 100 millions d'années, 150 millions d'années. Ça ne se termine pas. C'est effroyable, c'est insupportable. C'est-à-dire, même cette mort qui, en fait, en quelque sorte, Dieu te donne 20, 30, 50, que sais-je, moi, 70, 80, pourquoi pas 150 ans. Et après un moment, il te dit, c'est fini. La vie prend fin. Même ça, c'est l'un des aspects de la miséricorde de Dieu sur terre. Et donc, les manifestations de la miséricorde de Dieu dans le bas monde sont nombreuses. Sont nombreuses. Ouais, on a parlé, bien sûr, des manifestations de la miséricorde de Dieu dans l'au-delà. On passe maintenant à un sujet qui est assez important, qui est le fait de désespérer de la miséricorde de Dieu. Quand on revient dans les textes religieux, on voit que l'un des pires péchés en islam, c'est le fait de désespérer dans la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, si on essaie d'imaginer un Dieu sans miséricorde, eh bien, directement, on va se poser la question, mais quelle utilité de l'obéir? Tu veux son paradis? Tu l'obéis parce que, et tu l'adores parce que tu veux son paradis? À son paradis, peut-être que tu ne l'auras jamais sans miséricorde. Il n'y a plus d'espoir. Tu veux éviter l'enfer? Peut-être que tu vas jamais l'éviter, on en a parlé, s'il n'a pas de miséricorde. Tu veux l'être dans le bas monde? Tu ne l'auras jamais, peut-être sans miséricorde. Et donc on comprend que le lien le plus fort entre la créature et le créateur, c'est quoi? C'est ce lien de la miséricorde. C'est ce qui lie les créatures avec le créateur. C'est pour ça que la religion islamique a considéré que l'un des pires péchés en islam, c'est le fait de désespérer de la miséricorde de Dieu. Parce que si tu désespères de cette miséricorde, il n'y a plus de lien entre toi et Dieu. Quel lien te lie encore entre toi et Dieu? La justice, on en a parlé de la justice. Si Dieu doit juger dans le jour du jugement juste avec sa justice, on ne passera pas. Et donc, le rôle de la miséricorde, c'est le lien le plus fort en fait. La miséricorde a le lien, représente le lien le plus fort entre les créatures et le créateur. C'est pour ça que l'un des pires péchés, c'est de désespérer de la miséricorde de Dieu. Vous ouvrez n'importe quel livre, ouvrez Minhaj Salihin de Saïd Stani, dans le livre ou dans le chapitre de Taqlid, vers la fin, il parle et il discute sur les péchés en islam. Le deuxième péché, après le shirk, qu'il mentionne, c'est le fait de désespérer de la miséricorde de Dieu. Donc, oublions Saïd Stani, allons vers le Coran. Dans le Coran, le prophète Ibrahim dit: وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Et qui désespère de la miséricorde de Dieu, sinon les égarés? Et donc, le fait de désespérer de la miséricorde de Dieu est l'un des pires péchés qui puissent exister. Et comme on a dit, il y a de la miséricorde partout. Même dans la maladie qui peut te toucher, qui est mortelle. Et je sais que c'est pas facile. Parler, c'est facile. Mais quand la maladie nous touche, c'est pas facile. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالثة لتعجيل فرج صاحب الزمان. Même parfois dans la maladie, il y a un aspect de la miséricorde. Il ne faut pas désespérer. Alors comme j'ai dit, donc, très souvent parler c'est facile, mais quand ça nous touche, c'est pas facile. Bon, ça nécessite de quoi? D'éduquer son âme. Mais même la maladie, quand elle est mortelle. Cheikh Ismaël, il y a quelques nuits, il nous a lu un hadith sur la maladie. Où l'imam dit que même dans la maladie, il y a parfois de la miséricorde pour toi. Parce que si tu patientes et tu supportes cela dans l'au-delà, Dieu est juste, il est miséricordieux. Il va te donner la récompense de cette patience face à la maladie. Ne croit-on pas en un Seigneur qui est miséricordieux et qui est juste? Alors même dans la pauvreté, il y a un aspect qui représente et qui reflète cette miséricorde. Même parfois pour certaines personnes dans la pauvreté. Toi, tu es pauvre, mais peut-être si tu aurais été riche, peut-être que tu aurais eu beaucoup de problèmes. Et on voit ça dans certaines familles riches. Les membres d'une même famille se détestent. Les enfants rêvent que le père meure pour toucher l'héritage. Il y a de la haine entre eux. Bon, tout ça te sert à quoi? Peut-être que même parfois, alors je ne dis pas tout le temps, mais parfois, dans même la pauvreté, il y a un aspect de la miséricorde de Dieu. Et donc, tout ce que je viens de mentionner maintenant peut en quelque sorte nous éclairer sur l'une des différences qui existent entre un croyant et un mécréant. Par exemple, entre les croyants et les athées. Pour toute personne, pour tout individu, dans ce bas monde, on a en quelque sorte trois cercles de connaissances. On a tous le cercle de la famille, ensuite on a tous le cercle des amis, et ensuite on a tous le cercle du reste de la société. C'est quoi la différence entre un croyant et un athée? C'est que un athée, lorsqu'il perd ses trois cercles, il perd ses amis, sa famille et sa société, il n'a plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dans ce monde? C'est pour ça qu'en général, on observe qu'il y a un taux de suicide beaucoup plus élevé dans les sociétés non croyantes que les sociétés croyantes. Que ce soit par exemple en Europe ou au Japon, comparé à l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, etc. Bon, attention, je ne dis pas que c'est le paradis, que c'est magnifique, etc. Ils ont aussi beaucoup de problèmes. En tout cas, le taux de suicide, ça c'est les chiffres officiels, sont beaucoup moins élevés dans ces pays qu'en Europe ou au Japon, par exemple. Pourquoi? Parce que le croyant, quand il perd ses trois cercles, il garde un quatrième qui est Dieu. Et Dieu, par sa miséricorde, est toujours avec lui. Il l'accompagne toujours. Et donc, il n'arrive pas à une situation ou à un niveau où il se sent perdu, il se sent inutile, et où il met fin à ses jours. Il patiente. Il patiente avec cet espoir de la miséricorde de Dieu. Et ça affirme de nouveau donc l'importance du fait de ne pas désespérer dans la miséricorde de Dieu en tant que musulman. Je termine avec un dernier sujet. Miséricorde n'est pas laxisme. Dieu, on a dit qu'il est clément, il est miséricordieux, ça fait partie de ses attributs, on a parlé assez longuement de ces sujets. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'autres attributs. D'ailleurs, c'est parce qu'il a ces autres attributs qu'il est quoi ? Qu'il est parfait. Ça représente un équilibre. Dieu est certes le clément et le miséricordieux, mais il est également al-hakam, il est le juge, qui juge le jour du jugement. Il est al-muntaqim, celui qui prend la vengeance ou la revanche, et il donne, on va dire, il fait justice aux gens qui ont été victimes. Il est également al-muzil, celui qui humilie les arrogants. Et toute une série d'attributs qu'il faut prendre en compte avec les attributs de la miséricorde qui touche Dieu, donc. C'est pour ça qu'il a une sorte d'équilibre. Et c'est pour ça qu'il est parfait. Et c'est assez important, parce que même si on imagine, imaginons par exemple maintenant une mère qui sourit tout le temps, qui dit oui à tout, elle est gentille tout le temps, à 100% tout le temps. Les résultats, c'est des enfants mal éduqués. Parce qu'elle dit oui à tout. Son enfant veut frapper les autres, oui, elle sourit. Il veut tous les jours manger 5 kilos de sucre, oui. Le résultat, c'est des enfants mal éduqués et des adultes encore pires. Plus tard, des adultes encore pires. Et donc, Dieu est miséricordieux, mais il a aussi toute une autre série d'attributs. Dans le Coran, dans Sourate Baqara, il est décrit comme quoi ? Shadidul Azab. Il est dur en châtiment. Quand il faut châtier, quand il est jugé qu'une personne doit aller en enfer, il est dur en châtiment. Il est miséricordieux, mais également dur en châtiment. Ça signifie également qu'il faut quoi ? En tant qu'être humain, qu'on fasse attention. Et là, c'est toute la différence entre l'islam et le christianisme. Avec tout notre respect pour, bien sûr, nos amis chrétiens. Mais l'islam, c'est la religion de Dieu. Inna dina indallahi l'islam. La religion auprès d'Allah est l'islam. Est l'islam. Quand on va voir chez le christianisme, il y a des documentaires qui en parlent d'ailleurs. Par exemple, dans les sociétés assez croyantes, les sociétés chrétiennes croyantes, comme en Amérique latine, c'est un désastre là-bas. Les mafias là-bas massacrent, tuent, violent, kidnappent. Mais ils sont tous croyants et pratiquants. Ils ont tous une croix de 3 mètres et des tatous, tous en référence à la religion. Ils vont tous chaque semaine à l'église. Et c'est les plus grands donateurs au niveau des dons financiers pour l'église, etc. Ils sont vraiment croyants, parce que le christianisme a développé cette idée que toi, en tant que chrétien, il te suffit premièrement de croire en le sacrifice du Christ sur la croix, soit dit passant, c'est jamais arrivé pour nous les musulmans. Ensuite, tu dois croire quoi ? Dans les croyances chrétiennes, la Trinité, Jésus c'est le Fils de Dieu, et bon, etc. Si tu as adopté cette croyance et cette position, tu peux faire ce que tu veux. C'est pour ça qu'on a des mafias au Mexique, en Colombie. C'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Chaque semaine, il assiste à l'église. Lui, il ne peut pas vivre sans l'église. Mais tu vois, le reste de la semaine, il massacre, il kidnappe, il viole. Pourquoi ? Parce qu'il a cette croyance que moi, je peux le reste de la semaine faire ce que je veux. Puis le dimanche, je vais et je me repentis. Et l'amour de Jésus et ce genre de blabla, ils vont me sauver. L'islam, nous, comme j'ai dit, inna dina indallahi l'islam. La religion auprès d'Allah, elle est l'islam. C'est une religion qui responsabilise l'être humain. Elle lui dit, Dieu est miséricordieux, mais fais attention. Il veut de ta part que tu sois sincère. Il veut de ta part que tu te repentir. Et le repentir passe par le fait, des fois, de corriger ton erreur. Si tu as volé, tu remets l'argent. Al-Har, par exemple, quand il s'est repentir, il a corrigé son erreur. Il a rejoint l'imam Hussein, il est mort en martyr avec lui. Ce n'est pas une porte ouverte, la miséricorde, à tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, et maintenant, on passe aux événements de Karbala. Et aujourd'hui, c'est la nuit d'Abdallah al-Radi'a. Dans certaines sources, Abdallah, dans d'autres, Ali al-Azghar. C'est le bébé de l'imam al-Hussein, le nourrisson de l'imam al-Hussein. Il avait quelques mois. Et on comprend par l'histoire de Abdallah que cette miséricorde, qui était le sujet de notre discours aujourd'hui, eh ben, elle était absente du cœur des ennemis de l'imam Hussein, de l'armée de Yazid. Parce qu'il est rapporté le jour de Karbala que Zaynab, la sœur de l'imam Hussein, porta Abdallah radiya, elle emmena l'imam Hussein. Elle lui dit, écoute, on ne sait pas quoi faire. Nous, on est en train de mourir de soif et on essaye de patienter, c'est difficile. Mais ce bébé, comment va-t-il faire? Ce bébé, comment va-t-il faire? Et vous savez qu'un bébé, un nourrisson qui ne mange pas, ça pleure tout le temps. Ce n'est pas un adulte qui peut essayer de supporter. Et donc l'imam Hussein prit Abdallah radiya et l'emmena devant l'armée de Yazid. Il leur dit, si vous voulez me massacrer moi et me faire souffrir, pas grave. Mais cet enfant, qu'a-t-il fait? Quel est son péché? Si vous avez peur que je boive de l'eau, que je prenne l'eau que vous allez donner pour cet enfant et que je vais le boire, alors prenez le bébé, je ne le veux pas. Prenez-le, mais donnez-lui de l'eau. Alors il y a eu une divergence dans l'armée de Yazid. Certains ont dit, donnez-lui de l'eau, c'est qu'un bébé. Il n'a rien fait, on ne perd rien de toute façon. On a devant nous le fleuve de l'Euphrate, on lui donne un peu d'eau. D'autres ont dit, tuez-le, aucune goutte pour le camp d'Al-Hussein. Et donc, quand Omar ibn Sa'd a vu la divergence dans son armée, vous savez que dans une armée, pour un commandant, l'élément le plus dangereux, c'est la divergence. Il ne veut pas que ses soldats commencent à discuter et à mettre le doute sur ses décisions. Alors il a dit à Harmala, tire une flèche sur Abdallah. Et Harmala, que Dieu le maudisse, tira une flèche sur ce nourrisson qui transperça sa gorge. Et le sang coula de sa gorge. L'imam Hussein alors prit le sang et le jeta vers le ciel. Il est rapporté que ce sang ne retourna jamais du ciel. Que la paix soit sur toi, ô Abdallah, fils d'Al-Hussein. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein.